Vous écoutez IDFM, il est midi.
Chers amis, bonjour, quelle joie, quelle chance de vous retrouver en ce début d'année 2023. Ben, allez, je peux encore en profiter pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2023. J'ai même créé un mantra en 2023, en moi, je crois. Et si vous vous disiez ça tous les jours, en 2023, en moi, je crois. C'est Christophe Médicis avec vous sur IDFM dans l'émission Latitude Positive. Troisième ou quatrième année, je pense que c'est déjà la quatrième année. Et nous allons traiter d'un thème qui est formidable pour le début de l'année, puisqu'on va parler de comment s'envoler, comment atteindre de nouveaux objectifs, sortir de sa zone de confort. Pour cela, j'ai une auteure passionnante, une thérapeute qui va vous éclairer tout au long de l'émission. Claire Burel, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour Christophe.
Ravi de vous accueillir sur IDFM, une radio que vous connaissez bien déjà, vous êtes déjà venu. Claire, d'abord, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai adoré le titre de votre livre. Écoutez ça, chers amis auditeurs, comme c'est poétique et métaphorique. Il ne suffit pas de rêver son envol, il faut battre des ailes. Alors, d'où vous êtes venue l'inspiration? Pourquoi avoir choisi ce titre, Claire Burel?
Ah, eh bien, en fait, j'en avais choisi un autre. Et puis, j'avais commencé à rédiger le livre avec un autre titre qui parlait de résilience, mais c'était un titre, j'allais dire, assez banal. Et un jour, je suis tombée sur cette citation. Elle m'est tombée sous les yeux, en fait. Et là, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais c'est exactement ça. C'est exactement l'idée que j'ai envie de mettre en avant. C'est-à-dire, voilà, on a cette capacité de résilience, ok, mais il faut y aller, quoi. On avance.
C'est-à-dire, l'idée de battre des ailes, et d'ailleurs, vous allez voir, c'est vraiment ce que j'appelle moi, Claire, vous allez voir, si aux États-Unis, ils appellent ça des self-help books, des livres pour s'aider soi-même.
Tout
ça,
à fait.
Chers amis auditeurs, vous verrez qu'à chaque fin de chapitre, l'idée, la métaphore d'un battement d'ailes, c'est les petites actions comme exercice à faire pour bouger, n'est-ce pas? C'est bien ça. Hein,
voilà.
Donc, tout le monde, tout auteur, tout lecteur est un oiseau.
On peut tous prendre son envol, on peut tous ouvrir ses ailes. Enfin, ce sont des métaphores qu'on entend souvent. Hein. Prendre son envol, ouvrir ses ailes, sortir du nid aussi. Enfin, il y a plein de métaphores comme ça dans la vie courante qui nous renvoient finalement à cette citation où on peut effectivement décider d'ouvrir ses ailes, de prendre son envol, mais pour de vrai, quoi, d'aller découvrir d'autres espaces. Voilà, tout ça, ça va ensemble. Et l'oiseau est bien pour ça, je trouve.
Moi, j'aime beaucoup les oiseaux aussi. Alors, l'idée, c'est, on est dans une période pas simple, chers amis auditeurs, vous le savez, vous-même, moi aussi, on le sait, Claire, hein, c'est une période de crise, et même, j'avais créé un livre qui s'appelait l'entre-crise, un entre-là de crise, n'est-ce pas? Crise écologique, crise, voilà, financière, crise politique, en ce moment, crise sociale, je vous déflore pas ce qui se passe, vous le savez toutes et tous. Claire, comment pouvons-nous nous épanouir? Comment un être humain peut-il s'épanouir dans un moment un peu délicat en ce moment? Claire Burel.
Pour moi, il y a une évidence, c'est que il y a deux façons de regarder un petit peu notre quotidien, notre vie, notre possible. C'est soit de se laisser complètement attirer par tout ce qui se passe à l'extérieur et d'en souffrir parce que c'est effectivement très lourd, très pesant. Soit de le regarder en étant à l'intérieur de soi. Et ça fait toute une différence. C'est de prendre en compte notre vécu, nos ressources à nous, nos bases à nous. Je veux dire, il n'y a jamais de hasard dans le fait qu'on vive certaines choses et qu'on se retrouve après dans certaines expériences de vie. Et je trouve, et c'est un peu l'idée d'ailleurs que j'ai développée dans cet ouvrage, je trouve que toutes nos expériences de vie, à un moment ou à un autre, sont un petit clin d'œil pour avoir une ressource, un appui pour la suite. Et donc, à travers ce qu'on a déjà vécu, on a déjà toutes les ressources pour avancer, même à travers des crises. Et quand vous dites un entre-là de crise, moi, je trouve entre-là, parce qu'on est vraiment très, très là de toutes ces crises. On a tous des ressources intérieures, ça, c'est évident. Par contre, on n'y accède pas tous, parce que parfois, on va aller regarder de trop à l'extérieur des choses, au lieu de regarder à l'intérieur de nous.
Et évidemment, là-dessus, on partage cette chose-là. Les solutions sont toujours à l'intérieur.
Bien sûr.
Les solutions essentielles. Alors, c'est intéressant, dans les premiers chapitres du livre, à un moment donné, vous développez cette chose-là. À cette époque de la dictature de l'urgence, hein, comme dirait Gilles Finkelstein, où tout va tellement vite, on va de plus en plus, et aussi à cause du monde de l'homo connecticus et des réseaux sociaux.
Tout à fait.
Et vous, à un moment donné, vous insistez, vous signez bien qu'il est indispensable de prendre son temps. Alors, pour nos auditeurs de l'émission Latitude Positive, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux gens pour qu'ils arrivent à un petit peu ralentir, n'est-ce pas? pas être dans la dictature de l'urgence et de prendre son temps.
Alors, il y a un choix personnel dans l'idée de prendre son temps. Et puis, beaucoup de personnes vont dire « j'ai pas le choix ». Parce qu'il faut faire ci, il faut faire ça, ça m'attend pas, j'ai tel rendez-vous, j'ai tel horaire, j'ai tel délai, etc. Et je pense que malgré ça, on peut arriver à prendre son temps. Et il y a une métaphore que j'aime bien à propos de ça, c'est la musique. Moi, j'aime beaucoup la musique, j'en fais depuis
vous jouez de quoi ?
Des décennies. Je joue de plein de trucs.
Beaucoup d'instruments.
Je joue du D'accord. piano, je suis chanteuse, je suis compositeur. Enfin, je fais beaucoup, beaucoup de musique et j'aime beaucoup ça. Et en fait, il y a un truc qui est très intéressant en musique, c'est que le temps de la musique, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut percevoir. C'est-à-dire que si vous prenez une musique et que vous la mettez un tout petit peu trop rapide, elle ne se ressemble pas et elle n'est pas agréable à écouter. Et si vous la mettez trop lente, elle n'est pas bien non plus. C'est-à-dire qu'il y a le juste temps de chaque morceau de musique. Et ce juste temps, ça devrait être une référence pour nous aussi dans ce que nous vivons. Et le juste temps, parfois, c'est de prendre le temps de faire les choses avec une certaine lenteur, peut-être, alors que d'autres choses peuvent être plus rapides. Et je pense que ça passe par le ressenti. C'est-à-dire que ressentir en termes physiques, carrément, de l'activité qu'on est en train de faire, prendre le temps, c'est prendre le temps de ressentir. J'avais l'occasion ce matin de dire qu'effectivement, là, il pleut, entre le parking et puis la maison de radio ici, quand il pleut, on a l'impression qu'il y a plus de distance. Et ben, c'est une façon de prendre conscience des choses d'une certaine manière.
Oui.
Et prendre le temps, c'est ressentir cette pluie, se dire après tout, puisque je suis sous la pluie, je fais cette expérience d'être sous la pluie, puis elle durera peut-être 2 minutes, 3 minutes, peu importe. C'est pas le temps l'ingrédient principal de la vie, c'est pas le temps, c'est qu'est-ce que j'en fais,
oui. Alors, il y a au détour d'un chapitre, je crois même que c'est le titre d'un chapitre, vous allez me le confirmer, vous, puisque en plus ça fait écho à la couverture, à la jolie couverture qui a un beau dessin. J'ai oublié de dire que le livre était édité aux éditions Lanor d'ailleurs. C'est important, oui. Chers amis auditeurs, le livre de Claire Burel est aux éditions Lanor, un très très bon éditeur, très humain, et des gens qu'on apprécie beaucoup, 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 vraiment, qui sont à leur tête. Le langage des oiseaux.
Oui. Hein,
alors, vous parlez, Claire Burel, du langage des oiseaux. Ça fait penser. Moi, j'aime tout de suite penser même à Saint-François d'Assise qui parlait
oui,
aux
aussi.
Oiseaux. N'est-ce pas? Alors, que peut-il nous offrir le langage des oiseaux? Qu'est-ce qu'on peut comprendre grâce au langage des oiseaux, Claire Burel?
Alors, le langage des oiseaux, c'est fabuleux parce que, alors, pour les personnes qui n'en ont pas encore entendu parler, ce qu'on appelle le langage des oiseaux, c'est comment on va écouter les choses, mais pas forcément en leur donnant le sens habituel. Et parfois, ça donne lieu à des situations assez humoristiques parce que on est en famille, on parle et puis on n'a pas compris ce que l'autre a dit parce qu'on l'a interprété autrement. On a coupé un mot en deux et puis on l'a entendu autrement. Le langage des oiseaux, c'est très ancien. Ça date de l'époque des alchimistes. Et c'était quelque chose qui était aussi, alors qui permettait de cacher un peu le sens sous une autre, par exemple, la chanson Au clair de la lune, Mon ami Pierrot est une chanson qui est faites en langage des oiseaux, et j'invite nos auditeurs à aller écouter, à aller chercher sur l'internet comment on peut décrypter, parce que c'est une façon de crypter les choses dans cette chanson. Mais il y avait aussi tous les villageois qui se promenaient et qui avaient besoin à un moment donné qui savaient pas lire et qui avaient besoin par exemple de trouver un hébergement pour la nuit. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'hôtels, on en voit toujours, hein, qui s'appelaient l'hôtel au Lion d'Or.
Et pourquoi ?
Et l'hôtel au Lion d'Or, quand les gens voyaient ce Lion d'Or sur la façade, ils savaient que c'était un hôtel, même s'ils ne savaient pas lire. Parce que au Lion d'Or, si vous l'entendez en langage des oiseaux, c'est au lit, on dort. Donc voilà, c'est un endroit où on va trouver un lit pour dormir. Et le langage des oiseaux nous donne plein d'opportunités pour vivre les choses avec une autre audition, un autre regard du coup. Et c'est assez bluffant.
C'est joli tout ça, j'adore de travailler sur le langage des oiseaux aussi, parce que après on pourrait dire que Lacan a retravaillé ça en travaillant sur le signifiant, hein, le nom
oui.
du père, les noms du père.
Absolument.
Et tout ça. À un moment donné aussi, vous parlez de, et alors ça c'est vraiment le développement de l'intelligence émotionnelle, de l'importance de ressentir l'état émotionnel d'un individu, son état propre, état émotionnel intérieur, certainement pour voir dans quel état d'émotion on est, soit si c'est des émotions négatives ou positive. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs de l'attitude? Imaginons un auditeur qui est un peu coupé de ses émotions, qui a du mal à ressentir ses émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qu'on appelle ça clivé en termes cliniques. Hein. Comment cette personne-là, par des petits battements d'ailes, reprenons donc les exercices, pourrait petit à petit mieux ressentir ses émotions? Claire Burel.
il est de fait que ne pas ressentir ses émotions, c'est souvent ne pas vouloir ressentir ses émotions. Alors, pas forcément dans l'instant présent du jour d'aujourd'hui, mais il y a peut-être eu un moment dans la vie où ressentir ses émotions était vraiment douloureux. Alors, moi, habituellement, je ne parle pas d'émotions négatives ou positives. J'ai l'habitude de parler d'émotions confortables ou inconfortables.
D'accord.
Parce qu'en fait, elles nous apportent toutes quelque chose. Une émotion qu'on entend souvent appeler négative est une émotion qui apporte une information très importante sur comment je me sens dans cette situation. Si je suis en colère, si je suis dans la peur, si je suis dans le dégoût, ça me dit quelque chose de très important sur moi. Et en fait, pourquoi est-ce que les émotions sont si importantes? Parce que finalement, on a une identité à l'état civil, par exemple. C'est très bien, ça nous cerne d'une certaine manière dans un cadre, si on veut. Mais ce qui nous rend le plus vivant, c'est pas notre identité, c'est nos émotions. C'est elles qui font vivre cette personne que nous sommes. Donc connaître, ressentir le niveau émotionnel dans lequel on est, c'est s'approprier aussi sa façon d'être.
D'ailleurs, ça vient du latin emovere, qui est se met en mouvement.
Absolument.
Se met en mouvement.
C'est la même famille que le mouvement, l'émotion.
Et
tout à fait.
Et c'est vrai que.
Et motivation aussi. Est
et
la
motivation,
même famille.
Mais motivation vient aussi du latin motor, qui veut dire moteur. Mmh. Mais le moteur te met en mouvement.
Ah oui,
donc,
c'est la même famille.
Le moteur, c'est important parce qu'effectivement, dans une époque où il y a beaucoup de gens qui sont démotivés ou d'autres qui doivent passer en cycle de motivation, mais ils sont mis, j'appelle ça moi pour faire rire, en CDD, mais c'est pas contrat à durée déterminée, c'est cycle de démotivation. Si vous voulez bien, Claire Burel, pour nos amis auditeurs, on va passer une jolie page musicale et restez avec nous, on va continuer à feuilleter tout en donnant aux gens envie de lire le livre, des passages de votre livre passionnant qui vont permettre de voir que, eh bien, il a toute l'attitude pour un être humain de, et on aime bien l'expression, et vous et moi, Claire Burel, devenir une meilleure version de soi-même. A tout de suite sur IDFM.
Il a de la magie, mine de rien dans tout ce qu'il fait. Il a le sourire facile même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Dans le panier de crabe, il joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Garde autour de lui avec les yeux de l'amour. Avant que t'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ. Il fait pas de bruit, il joue pas du tambour. Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler.
Et oui, comme le grand Hervé Christiani, il est libre, Max. Je sais qu'on ne naît pas libre, évidemment, chers amis auditeurs, on le devient. Et des gens comme nous, qui faisons les métiers du bien-être, vous savez que sur IDFM, sur la radio du bien-être, eh bien, on tend à aider les gens à se libérer. Vous êtes toujours avec Christophe Médici dans l'attitude positive. J'ai la chance d'avoir comme première invitée de l'année une thérapeute et auteure passionnante, Claire Burel, qui vous parle de son tout nouveau livre qu'elle commet depuis 2022, qui s'appelle, écoutez bien le titre comme il est beau, « Il ne suffit pas de rêver son envol, il faut battre des ailes ». Claire, à un moment donné, vous parlez de la dame néant. Qu'est-ce que c'est que cette dame néant ?
La dame néant, c'est en référence au poème La môme néant, c'est ça ?
La môme néant, c'est la moi qui me trompe, néant, c'est la c'est môme ça. Néant, c'est pas la dame néant. Mille excuses, vous parlez de la môme néant,
voilà.
Un chapitre.
Oui.
Alors
oui.
Qu'est-ce que vous pouvez en dire de cette môme néant ?
Ah ça, c'était un poème que l'un de mes frères avait affiché dans sa chambre parce qu'il le trouvait génial. Et donc, j'étais baignée un petit peu dans la vision de ce poème sous les yeux. Et voilà, donc la môme néant, qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'a qu'elle dit, qu'a qu'elle fait, qu'a fait rien.
Elle
dit rien. À faire rien, à dire rien. Et en fait, voilà, est-ce que nous, on peut réagir par rapport à ça et comment est-ce qu'on peut utiliser ? En fait, mon idée, c'est qu'est-ce qu'on peut utiliser quand on l'a sous les yeux, quand on, toutes nos expériences nous servent à quelque chose. Donc à partir de n'importe quelle expérience ou n'importe quelle situation, il y a toujours quelque chose qui peut nous permettre d'aller plus loin, de rebondir, de découvrir autre chose, d'en faire quelque chose, quoi, tout simplement.
Donc c'est toute la vie est un matériau, c'est ça que vous voulez dire, hein. Ça me fait penser à toutes cette phrase de Bachelard qui dit, chers amis auditeurs, l'éducation de la vie déprave les êtres légers mais perfectionne ceux qui réfléchissent. D'une certaine manière, certaines personnes font quelque chose de leur vie, de leur éducation de la vie, volins nolins, d'autres n'en font rien. C'est dommage, mais c'est la réalité. Si tous les êtres humains se bonifient en vieillissant, ça se saurait. Malheureusement, c'est pas le cas. Oui, parce que c'est un travail de devenir une meilleure version de soi-même. Donc, il y a toujours une dimension d'effort. Mais l'erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'ils sont persuadés que ça fait mal à la tête. Et vaut mieux regarder toute la journée des séries Netflix. Ben non! Ben non! C'est forcément des moments de plaisir. Qu'en pensez-vous, Claire Burel?
De toute façon, toutes les situations où on va effectivement avoir le sentiment d'avancer sur quelque chose, en fait, on le sent plus l'effort. Hein.
On le sent plus l'effort.
Je ne sais pas s'il y a parmi nos auditeurs, il y a certainement des quantités de personnes qui ont mis des enfants au monde. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et de fait, quand on met un enfant au monde, ce n'est pas facile. Au niveau de l'effort, on en parle.
Nous, les hommes, on ne comprend même pas ce que ça doit être.
Oui, c'est pour ça que ce n'est pas forcément directement à vous que je m'adresse, mais bien à nos auditrices.
Non, mais nous, je crois qu'on serait incapable.
Bah, vous, ça correspond, paraît-il, à peu près à quand vous avez un rhume. Mais je crois que les femmes se rendent compte que quand on a mis un enfant au monde, on en a bavé pendant un moment. Oui. Mais on oublie tout ce qu'on a eu comme effort physique. On est fatigué, mais ça s'oublie.
Le cadeau d'après.
Bah parce qu'il y a quelque chose qui vient et qui change la vie derrière.
Ouais, voilà, c'est ça. Alors un autre chapitre tout de suite après celui-là, vous évoquez ce que vous appelez, j'adore d'ailleurs cette expression, donc j'aimerais vraiment que vous la développiez pour les auditeurs de l'attitude positive. Vous parlez de la simplicité du cœur. Vous vous rappelez,
oui,
hein?
Oui.
C'est beau cette idée de la simplicité du cœur.
Oui.
Moi, j'aime beaucoup l'idée qu'un être humain, même les grands bonhommes, doivent être des gens simples. Alors, qu'est-ce que vous y mettez, vous, derrière, Claire Burel, la simplicité du cœur?
Ça, c'était ma grand-mère qui répétait volontiers, quand tu vas pas bien dans ta tête, occupe tes mains. Et intéresse-toi à ce que tu es en train de faire avec tes mains. Et à ce moment-là, effectivement, ça nous retranscrit directement nos ressentis, nos émotions. On est à fond dans la vraie vie. C'est essentiel, la vraie vie. La vraie vie, c'est pas dans la tête, en fait. On en a besoin de notre tête, hein, je dis pas le contraire, je me sers beaucoup de la mienne. Hein, mais c'est pas là qu'on a la vraie vie. D'ailleurs, quand on est dans sa tête, on n'est pas dans l'instant présent. Mmh. Le nombre de personnes qui s'aperçoivent que, bah oui, j'étais en train de faire autre chose, je ne me suis pas rendu compte que ça brûlait. Par exemple, pourtant, il y a l'odeur, hein, du repas qui brûle dans la cuisine. Ça m'arrive souvent, c'est un exemple que je connais bien. Mais on n'est pas dans la vraie vie quand on est dans sa tête. Et la simplicité du cœur, c'est celle avec laquelle on va simplement prendre les choses comme elles viennent et accueillir ce qui se présente et agir à travers ce qui se présente sans se poser de questions, en fait. C'est tout simple.
Ne pas se poser des questions qui seraient des questions hamster, des questions où on fait du surplace, en fait.
C'est oui, ça. C'est ça, la rumination, ouais, la rumination cérébrale, mentale,
ouais,
qui nous mène jamais à rien, puisqu'en fait, c'est une espèce de roue dentée qui revient toujours au début quand on arrive à la fin. Enfin, il n'y a ni début ni fin, d'ailleurs. Hein. C'est
un engrenage. Après, il y a quelques chapitres aussi. Alors, ça, c'est aussi un des sujets qui me passionne. J'ai pas mal travaillé la question aussi. Sujet de la confiance en soi.
Ah, hein, mon Dieu.
Donc vous faites son sort au sujet de la confiance en soi. Oui, c'est un serpent de mer dans nos métiers, mais c'est quand même pas une petite affaire. Hein.
Non.
Feu Éric Taberly avait dit la confiance est un élément majeur, sans elle aucun projet n'aboutit. Un être humain a besoin de confiance en lui, ce qui n'est pas la même chose d'ailleurs que l'estime de soi.
Hein, tout à fait.
D'accord.
Tout à fait.
Alors vous êtes très très subtil sur votre vision de la confiance en soi. Vous avez une vision, disons, il faut avoir une certaine confiance en soi, mais vous parlez même des deux confiances en soi.
Oui.
Vous rappelez, développer pour les auditeurs de l'attitude positive, la vision de Claire Burel de la confiance en soi.
Alors la confiance en soi, si on demande à quelqu'un dans la rue, est-ce que vous avez confiance en vous, je pense qu'à 80% on va retrouver quelqu'un qui va nous dire, oh ben non, pas du tout. Parce qu'en fait, confiance en soi, c'est un terme qui, à lui tout seul, n'a pas de cible, il n'a pas de valeur précise. Il voudrait peut-être éventuellement dire, est-ce que vous avez un gros ego, à la limite. La vraie confiance en soi, c'est celle qui ne pose pas de questions parce qu'elle est naturelle. C'est-à-dire que, alors moi je fais beaucoup de numérologie quand je reçois les personnes dans mon bureau qui viennent pour des petits soucis à régler, pour de la thérapie. Je fais beaucoup de numérologie et en numérologie, on peut faire vraiment la part des choses parce qu'il y a une case qui est dévolue à la confiance en soi, qui peut aller depuis, je ne sais pas vraiment, j'ose rien, je me ronge les ongles tellement je n'ose pas, ce qui peut aller jusqu'à un ego démesuré, avec, ou un charisme très fort, avec la capacité de guider les autres, etc. Il y a plein de variétés possibles. Et mais je vois souvent des gens dont cette case-là en numérologie n'est pas très, très meublée, on va dire. Et qui, et quand je leur dis, oh, on dirait que vous n'êtes pas très sûr de votre confiance en vous. Ah non, non, pas du tout. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que la plupart du temps, les personnes en question disent qu'elles n'ont pas confiance en elles, mais aussi bien, j'en ai une qui m'a dit, mais je peux parler devant une salle de 4000 personnes, ça ne me gêne pas. Ce qui n'est pas...
C'est un peu paradoxal
pour la plupart des gens.
C'est vraiment antithétique. Oui.
Et en fait, ce n'est pas antithétique, c'est parce que quand cette personne-là est dans son élément, elle a confiance en
c'est
elle.
C'est ça que vous développez. L'idée que la personne doit être à sa place.
Exactement.
À sa juste place.
Quand on est à sa juste place, on ne se pose même pas la question de confiance en soi. On est à sa place. Et ça, ça donne le sentiment nécessaire pour faire les choses sans s'interroger en se disant quel est mon degré de confiance en moi.
Tout le travail qu'on a à faire, nous, qu'il est thérapeute, qu'il est formateur, qu'il est coach, qu'est-ce que je veux, c'est qu'on se rend compte que volins, nolins, dans l'espèce humaine, il n'y a pas une immense majorité de gens qui sont à leur place et qui sont alignés à leur mission de vie, Claire. Et c'est un vrai souci. C'est-à-dire que pour X raisons d'injonction par... Vous vous rappelez de ce livre que tout le monde lisait il y a quelques années de Bronnie Ware, Les 5 regrets des personnes en fin de vie, n'est-ce pas?
Et
elle disait bien qu'un des 5 regrets qu'avait toutes les... Alors, mes chers auditeurs, qui était Bronnie Ware? C'était pendant très longtemps une infirmière australienne en soins palliatifs qui écoutait les gens les derniers mois, les dernières semaines de leur vie. Elle s'est rendue compte que à 77% du temps, les gens avec à peu près les mêmes 5 regrets. Un de ces 5 regrets, c'était avoir fait des choix qui les avaient amenés à des activités, et on est au cœur du sujet là, de la juste place, qui n'étaient pas déterminées par leurs désirs, leurs souhaits, leurs motivations personnelles, mais des injonctions extérieures, notamment, et vous voyez venir, les injonctions parentales. C'est ça qu'on doit aider les gens à trouver leur juste place. Vous, Natacha Calestrémé, moi, on est sur ces sujets-là. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais je trouve que sa juste place, ça devrait être une évidence, et ça l'est pour beaucoup de gens. Et puis, ce qui est très curieux, c'est qu'encore une fois, si j'utilise la numérologie avec les personnes qui viennent me voir, on s'aperçoit que les gens savent où est leur juste place. Ils ont cette intuition.
Ils
tout ce que je leur dis, ils le savent.
Vous voulez dire, c'est ça, ils l'intuitionnent.
Oui, ils le savent intérieurement. Mais effectivement, il y a tout un tas d'injonctions. Il y a à qui, comme disait le titre du livre de Jacques Salomé, à qui ferais-je de la peine si j'étais moi-même? Il y a toutes ces injonctions extérieures à soi qui font qu'on n'est encore pas à l'intérieur de nous. Et c'est pourtant là que tout se trouve.
On va développer ça, d'accord? Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? On passe une page Mika, c'est passionnant, restez avec nous. Elle nous développe des passages intéressants de son livre. Restez avec nous, une petite page musicale. Vous êtes bien sur la radio du bien-être des FM.
I am sailing home again, cross the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. To be free. Can you hear?
oui, comme dit le beau et le formidable Rod Stewart, I am sailing hein, on the sea. C'est comme si la métaphore de la vie était une traversée de l'océan ou de la mer. Vous êtes toujours dans l'attitude positive avec Christophe Médici pour la première émission de l'année. Je reçois Claire Burel pour son livre « Il ne suffit pas de rêver son envol, il faut battre des ailes » aux éditions Lanor. Claire, on était sur un sujet, on va le poursuivre.
Eh ben oui.
Il n'est pas épuisé.
Eh ben c'est
peut-être trouver sa place, être à sa place. Tout de suite, immédiatement, j'ai pensé, moi qui ai fait quelques années de théâtre plus jeune, à cette phrase de Louis Givet qui disait « Rater sa vocation, c'est se chercher où l'on n'est pas ».
Voilà.
Pourquoi y a-t-il autant de gens qui se cherchent où ils ne sont pas ? Claire Burel.
Je pense qu'effectivement, on se cherche là où les autres nous renvoient qu'on doit être, très souvent.
Très intéressant.
Il y a cette histoire de d'être conforme à l'idée de ceux qui nous attendent au tournant. Enfin, ça peut être plein d'amour d'ailleurs, hein, cette façon de nous attendre au tournant.
Joli lapsus.
Au tourment, un joli lapsus. Hein,
on
nous attendre
un
au tournant.
Avec nous et il s'amuserait là.
Oui, ça c'est sûr. Mais effectivement, ça peut être plein d'amour. Les parents ont plein de désirs pour leurs enfants. Ils veulent que leurs enfants soient heureux, mais ça ne dépendra pas d'eux de toute façon. Mais ça dépend parfois dans leur esprit de tout ce qu'ils ont envie de mettre sur le chemin de cet enfant et de lui permettre et de lui faire vivre, etc. Et ça peut être très ennuyeux pour l'enfant, oui.
Est-ce que vous avez une vision qu'ont certains, je la partage en même temps, je me demande si elle est vraie, qu'on aurait, là-haut, quand on était que des âmes, décidé de redescendre à un moment donné, et on aurait choisi, avec beaucoup de guillemets, hein, c'est une vision comme une autre, partagée ou pas, hein, ces parents-là, même s'ils étaient catastrophiques, parce que ces parents-là étaient ceux qui nous permettraient, dans ce chemin de vie-là, de régler des trucs, de travailler. Vous partagez ça, vous?
Mais je partage tout à fait. Pour moi, il n'y a aucun hasard nulle part. Dans cette vision dont vous parlez, on entend même dire que les enfants tournent 2 ou 3 ans autour de leurs parents pour bien s'assurer que c'est ceux-là qu'ils veulent et pas d'autres. Moi, ça me parle bien. Et je pense qu'effectivement, quand vous dites, même s'ils sont épouvantables, vous n'avez peut-être pas dit épouvantables, mais vous avez dit même si. Et je dirais, parce qu'ils sont comme ils sont.
Parce qu'ils sont toxiques, on va dire. Comme avait dit Suzanne Forward, les parents toxiques, chef d'œuvre de 92, les parents toxiques, parfois.
Parce que ça peut être exactement l'apprentissage dont on a besoin.
On en a besoin, mais ça fait des morts, parfois.
Ça peut faire partie de l'apprentissage. Après, moi, j'ai toujours une vision assez dédoublée de notre vie, de notre incarnation. C'est que je me place toujours un petit peu dans l'aquarium et au-dessus de l'aquarium. L'aquarium étant notre incarnation, la vie sur Terre. Donc, quand je suis dans l'aquarium, je suis au milieu des autres poissons, on nage et puis on se débrouille pour trouver à manger, respirer un peu d'oxygène. Mais quand on est au-dessus de l'aquarium, en fait, on voit autre chose. On voit comment il y a des interactions, on voit ce qui est possible. On est là aussi pour rajouter un petit peu de nourriture pour les poissons entre deux. Tout est possible dans la vie et en fait, tout est bien puisque tout est possible. Il n'y a pas d'erreur.
Oui, puis en plus, vous citez cette fois, je l'adore aussi, cette citation de Mandela. Mmh. De toute façon, chers amis auditeurs, écoutez-la bien, méditez-la en ce début d'année. Cette magnifique phrase de Mandela, d'ailleurs, vous expliquez ce que vous sentez dans cette phrase. Hein. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. I never lose, either I win, either I learn. Donc l'idée, c'est aussi de toute façon qu'on apprend parfois de ces grosses embûches et de ces grosses erreurs.
Absolument, mais on n'apprend pas forcément tout de suite.
Ah, ça,
c'est-à-dire que pour
ça,
apprendre de nos expériences, il faut déjà prendre un recul qui nous permet de sortir de la victimisation, par exemple, si on est tenté d'y être. Parce que la victimisation ne nous apprend rien.
Jamais.
Jamais.
Et comme dit mon ami Boris Cyrulnik, malheureusement, on peut faire toute sa vie une carrière de victime.
Tout à fait.
Et certaines personnes, quand ils restent dans le triangle de Karpman, Volins Nolins, ils ont eu une enfance abominable, bon, dont acte. Il y a des gens qui ont eu une enfance abominable, qui ont fait une très grande vie.
Absolument.
Il y a une phrase très belle de Musset dans Nuit de décembre, rien ne nous rend plus grand qu'une grande douleur. Et c'est certainement les gens qui ont eu de grandes douleurs qui font de grandes choses. Il n'y aurait pas eu Bach, il n'y aurait pas eu Mozart, il n'y aurait pas eu Dali, il n'y aurait pas eu Proust, il n'y aurait pas eu, voilà, tous les grands artistes s'il n'y avait pas la souffrance.
Et comme tout le monde ne connaît pas la vie de tous les grands artistes, et nous on n'a pas tous les détails non plus, on peut voir des choses encore plus concrètes parce que le concret ça parle, mais j'en parlais avec ma petite fille il y a 2 jours justement, c'est pour ça que c'est présent à mon esprit. Mais on voit parfois des personnes qui ont un handicap que je ne leur envie pas parce qu'il est vraiment très lourd, et qui font des choses dans leur vie que moi-même je ne ferais pas alors que j'ai pas ce handicap, parce que je m'en sentirais pas capable, comme on peut avoir vu Philippe Croizon faire la traversée de la Manche à la nage. Moi déjà quand j'ai traversé la piscine, je suis contente de moi, et pourtant j'ai mes 4 membres.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que Philippe Croizon, que j'ai interviewé à la télé certaines fois, nous explique bien la chose, qui est valable pour encore malade et plein de gens, c'est qu'il y a eu un avant et après leur
accident.
Et l'homme qui sont devenus, le terme est horrible, mais grâce
mais oui.
à ce drame, oui, mais quelle force et courage de résilience qu'il faut. D'ailleurs, on va parler du courage tout à l'heure, parce qu'il y a des passages sur le courage passionnants dans votre livre. Et restez avec nous, chers auditeurs. Mais quand même, Philippe dit bien qu'il a voulu se suicider pendant les 8 premiers
mois. Bien sûr.
Après, il dit, je n'aurais pas eu cette vie aussi magnifique, une femme incroyable, mais fixer des défis et tout. Parce que qu'est-ce que j'en fais d'avoir que 4 moignons, alors que j'avais mes 2 bras et mes 2 jambes, comme grand corps malade qui tombe dans une piscine vide. Voilà, il serait peut-être pas devenu grand corps malade. D'ailleurs, lui, c'est même devenu le nom de son homme de scène, grand corps malade. Évidemment, il n'aurait pas été grand corps malade. Après, il faut dire aussi la vérité est claire. Il y a des gens à qui il arrive la même chose qu'à Philippe Croizon et à Grand Corps Malade et qui, eux, n'en font pas quelque chose d'extraordinaire.
Et c'était à ce sujet que j'en parlais avec ma petite fille l'autre jour en lui disant c'est à l'intérieur de nous que la ressource existe.
Exactement.
Et on a toujours le choix parce que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on n'a pas la capacité de le dépasser. La preuve, il y en a qui en ont et qui le dépassent d'une manière où même moi, sans le handicap, je n'ai même pas le courage de le faire. Donc oui, il y a un avant et un après, il y a des leçons que la vie nous apprend. Et là, en l'occurrence, c'est un apprentissage extraordinaire.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est la même chose finalement quand il s'agit de douleurs muettes, hein, de souffrances intérieures, psychologiques, de vie, de tout ce qu'on veut bien, de maltraitance ou autre, qui peuvent donner lieu aussi à une résurgence de la personnalité qui a envie de vivre autre chose, de sortir de ça pour exprimer toute la qualité de ce qui est à l'intérieur. Et là, il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire.
Eh oui.
C'est passionnant une vie.
Ouais.
C'est passionnant une vie parce que même dans les moments difficiles, j'aime bien cette idée et là ça me permet de faire une transition avec vous de tous les passages que vous développez sur l'optimisme. On pense au chef-d'œuvre de Martin Seligman, la force de l'optimisme. Mais alors, comment cultiver son optimisme? Vous avez des battements d'ailes à proposer là-dessus, Claire Burel.
Bah, cultiver son optimisme, déjà, c'est choisir le regard qu'on va poser sur les choses, de toute façon. C'est-à-dire qu'effectivement, dans toute situation, il peut y avoir le côté vraiment monstrueux, noir, à souhait, déprimant au possible. Et puis, il y a l'autre partie. Et puis, il y a ces histoires qu'on trouve un petit peu partout. Où, bah, on a raté l'avion, mais on a rencontré l'amour de sa vie. Voilà, ça, c'est des histoires qui nous montrent qu'on peut être optimiste parce que quelque chose qui est a priori raté peut donner lieu à quelque chose qui est parfait. Réussi, comme d'ailleurs l'exemple qu'on vient de prendre avec Philippe Croizon. Grâce, oui, grâce à cette.
Vous la connaissez, cette phrase de Churchill, on va la livrer aux auditeurs d'IDFM. Hein. Churchill, le grand Winston Churchill, chers amis auditeurs, avait dit « Le pessimiste voit en toute opportunité une épreuve, c'est alors ça. Que l'optimiste voit en toute épreuve une opportunité. » Elle est magnifique, parce que l'optimiste, c'est tout le temps quelqu'un qui pense que du bon va lui arriver. Donc même quand il y a une galère, écoutez bien ça, ce qu'on vous dit avec Claire Burel, en fait, il y a un cadeau là-dedans. Alors, c'est ce que les coachs américains appellent l'avantage décalé, parce que le cadeau, c'est pas tout de suite.
C'est ça.
Si t'as un truc grave, une grave maladie, un deuil, une rupture amoureuse, le cadeau, il est pas tout de suite.
Bah, j'ai l'habitude de dire que le cadeau est souvent très très mal emballé, en fait. L'emballage est
c'est
pas
une belle
bon.
Image.
C'est horrible.
C'est une belle.
Mais une fois qu'on a enlevé l'emballage, le cadeau, il est là.
Il est là. Il y a un effort parfois à fournir pour aller chercher le cadeau.
C'est ça.
Et c'est pas un cadeau qui se donne tout de suite. C'est un cadeau qu'il y a quelque chose à faire pour l'avoir, ce cadeau.
Cadeau participatif,
oui.
On pourrait dire.
Oui, il y a quelque chose, il faut gratter. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, Claire Burel, mais il y a quand même deux formes d'optimisme. En France, d'ailleurs, l'optimiste n'a pas bonne presse. L'optimiste, en France, c'est le pessimiste qui est vu comme sérieux. Le pessimiste est vu comme sérieux et l'optimiste est vu un peu comme un fanfaron, un farfelu.
C'est vrai aussi.
Il est un peu farfelu. Nous, on est de la famille des optimistes, mais il y a deux familles aussi. C'était étudié chez les psychologues. Il y a l'optimiste BA qui est dans le suroptimisme et lui...
Irréaliste,
absolument. Sûr. Déréalisé, comme on dirait en sens freudien. Et puis, il y a l'optimisme réaliste. On est un optimiste réaliste. Moi, je remets en cause que ce serait que les pessimistes qui soient des réalistes, Claire Burel.
heureusement non.
C'est quand même incroyable, cet amalgame qu'on fait en France.
Et oui, mais en même temps, il y a beaucoup de prophéties autoréalisatrices. Donc, ceux qui sont pessimistes et qui voient le noir partout peuvent arriver à être dans le noir et à dire « j'avais raison ». Donc, voilà, il y a un choix d'attitude, il y a un choix... c'est pas par hasard que c'est le nom de votre émission, l'attitude positive. Il y a un choix d'attitude pour être positif et pour accepter aussi, parfois, de faire l'effort, de voir que, bon, tout de suite, effectivement, on a les pieds dans la boue, mais un peu plus loin, le jardin est magnifique. Quoi.
C'est ça.
Il faut traverser.
C'est ça. Alors... J'adore ça. D'expliquer à tous les gens qui en ce moment sont peut-être un peu dans le noir. Vous nous écoutez et peut-être que vous êtes dans une période pas simple de votre vie. Vous inquiétez pas, on en a tous transversé 5000 et on en retraversera peut-être. Le terme qu'emploie Claire Burel et que je partage des 6 mains, si on en avait 6, c'est que c'est toujours une traversée. Et quand vous pensez que c'est une traversée, vous pensez que vous êtes toujours en mouvement.
Exactement.
Il n'y a pas pire que de se sentir, comme diraient les Américains, stock.
Voilà.
bloqué, tanké. Mmh. On va passer une page musicale, on va continuer sur ce sujet intéressant. Restez avec nous.
D'ici, rien ne parle, rien ne bouge. Arrêt sur écran vivant. Isolé, vaincu sans doute, aliéné. Pas même un battement. J'aimerais qu'on me ramène. Je ne reconnais plus les gens. Seul tout au fond de ma haine, la peine est mon dernier amant. Il faudrait que je me lève, respire et marche vers l'avant. Bâtisse à nouveau la grève enterrée par mes sables mouvants. Et me souvenir de celle qui n'existe plus vraiment. Redevenir la rebelle et la bête vaincue par l'enfant. J'y crois.
Lara Fabian avait raison. Si Lara Fabian qui nous dit « j'y crois encore », finalement, hein, on est vivant tant qu'on y croit encore. Vous êtes toujours avec Christophe Médici dans l'attitude positive. J'ai une invitée passionnante pour la première de l'année, Claire Burel, thérapeute et auteure de best-seller, qui nous offre « Il ne suffit pas de rêver son envol, il faut battre des ailes ». Claire, on était parti sur ces histoires de transformer le négatif en positif en tant qu'optimiste, hein, voilà. Il y a cette idée aussi que vous développez, et j'adore, parce que c'est très américain, mais moi, on faut aller chercher dans tous les beaux jardins, l'Asie,
bon.
L'Orient, et on laisse le mauvais. Il y a l'idée du faire comme si, n'est-ce pas?
Oui.
Faire comme si, chers amis auditeurs, il y a un proverbe américain que j'adore, qui dit « fake it until you do it, fake it until you become it ». Fais-le jusqu'à ce que tu le deviennes.
Absolument.
C'est ça votre idée du faire comme si, Claire
oui.
Burel.
Et oui, et c'est quelque chose que j'ai souvent expérimenté, mais dans tous les domaines. C'est-à-dire que une fois, je devais me coudre une robe de soirée. Je suis nulle en couture. J'ai eu 7 sur 20 au bac en couture. C'est pour vous dire, j'étais pas très. Pourtant, j'étais fière de moi. Et cependant, j'adore faire de la couture parce que je suis très créative et que j'aime beaucoup faire les choses. Donc, je m'étais lancée ce défi. Mais avant de coudre ma robe, je l'ai cousue en pensée pendant des jours. C'était plus fort que moi, en fait. Et je me suis aperçue que quand je l'ai fait, c'était facile.
Voilà. Ouais. Vous l'aviez pensé à l'intérieur,
ouais.
Vous l'aviez créé,
ouais.
Et après, elle est devenue extérieurement.
Voilà.
Parce que c'est un peu l'idée du vous savez ce qu'ils appellent le dream building aux États-Unis,
oui,
le tableau de visualisation.
Oui, aussi.
De toute façon, chers amis auditeurs, un projet se crée toujours deux fois. Qu'on écrive des livres, comme nous, qu'on fasse des stages, qu'on soit un peintre, qu'on soit un chanteur, qu'on soit n'importe quoi, si le projet ne se crée pas dans la tête dans un premier temps, je ne vois pas comment on peut se faire dehors.
Mais
c'est
en
presque
fait,
altruisme, mais c'est la vérité de l'humain.
C'est évident, et puis c'est ce que font toutes les personnes qui sont à un haut niveau de performance, de toute façon. Donc c'est quand même une bonne idée, sinon ils ne le feraient pas. C'est ce qu'on fait quand on fait du sport à un haut niveau. On va toujours anticiper le saut en hauteur ou en longueur, les yeux fermés, plus ou moins en hypnose, pour arriver à valider la capacité qu'on a de le réussir. Et une fois que le cerveau a compris qu'on allait le réussir, on réussit. Et je pense avoir d'ailleurs donné, je crois que c'est dans ce livre-là que je raconte la belle séquence qui s'appelle Faire la musique parmi les pilotes de la patrouille de France, dont j'ai eu le plaisir de rencontrer la leader Virginie Guyot, qui a fait ça il y a quelques années, puisque c'est une seule année, hein, le leader. Et donc Virginie expliquait effectivement la musique, là, c'est chacun assis à sa place dans la salle de répétition, qui va les yeux fermés vivre ce moment c'est un peu périlleux, hein, ce moment de voltige, en fait, hein. Ils font des voltiges. Ils sont quand même à 800 km/h en équivalent terre, et ils sont à 2 mètres l'un de l'autre, quoi. C'est-à-dire que la moindre dixième de seconde, là, pour le coup, ça pardonne pas du tout.
T'as pas le droit. Failure is not an option. T'as pas le droit à l'erreur.
Il n'y a pas le droit à l'erreur. Et en fait, ils vont répéter ça, non pas forcément en l'air à 10 000 pieds, mais simplement dans la salle, les yeux fermés. Et ils bougent en même temps, leurs mains bougent comme s'ils faisaient bouger le manche. Et elle est vraiment là en train de les guider en disant top, top, top. Et ils suivent. Et la vidéo que j'ai vue était absolument émouvante au possible. Et ils sont tous là dans cette... Voilà, ils répètent. Et on répète dans sa tête parce qu'on ne va pas répéter avec les avions de la patrouille de France au risque de se cracher tous ensemble.
C'est ça.
Et d'où quand on les regarde, ça marche.
D'où le travail. Et le travail, comme vous disiez, de la visualisation. Le travail de la répétition, 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 de la visualisation. Comme un descendeur de Kitzbühel avant la finale olympique de la descente. Quoi.
Sûrement, lui tous aussi, les sportifs
Il peut se
font.
Tuer. Donc on le voit bien, chers amis, quand vous regardez la télé, quand ils sont là-haut, ils se répètent pour la énième fois, la dernière fois ou l'avant-dernière fois dans... les yeux fermés, la piste. Parce que la piste, on est à 150 sur la glace. Le moindre écart, tu risques la mort. Venons-en, puisque vous êtes aussi thérapeute, n'est-ce pas? Et moi, formateur coach. Les gens qui viennent nous voir ont tous peu ou prou, et c'est normal, un désir de changement. Il y a quelque chose qui doit être changé dans leur vie. Chers amis auditeurs, vous devez le savoir, l'être humain, il est ambivalent vis-à-vis du changement. Il le désire autant qu'il en a peur, il le désire autant qu'il le craint. Notre cerveau, il est plutôt conservateur, les neurosciences nous l'apprennent. Il aime bien ses zones de confort, il aime bien ce qu'il a déjà répété 3 milliards de fois en programme. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire, qu'est-ce que vous développez là-dessus vis-à-vis du changement, Claire Burel?
Déjà, parfois, changer, quand c'est en profondeur, on ne s'en aperçoit pas qu'on a changé. C'est les autres qui s'en aperçoivent. Parce qu'il y a une certaine logique à être comme on est et trouver ça banal et ordinaire. Et si un changement intervient, on redevient quelqu'un qui... Enfin, on est toujours quelqu'un qui est soi. Donc, être soi, c'est banal et ordinaire pour tout le monde. Quand quelqu'un vous dit « Oh là là, t'as un talent fou pour tel truc », bah non, c'est normal. Et pourtant, peut-être vous y avez passé des heures et des heures. Donc, il y a cette capacité d'avoir une vision de soi qui est assez ordinaire, on pourrait dire, tronquée peut-être, qui fait que le changement, on ne le voit pas forcément. Et c'est d'ailleurs bon signe quand on a un changement positif et que ce sont les autres qui le remarquent. Maintenant, le changement, c'est toujours assez paradoxal parce qu'il est toujours question d'être soi-même. Donc, on change dans la continuité d'une certaine manière. Changer pour être quelqu'un d'autre, ça serait quand même assez étrange. Moi, je ne suis pas... Voilà, quand les gens veulent du changement, en fait, ce qu'ils veulent, c'est pas forcément changer. Ça peut être aussi mieux vivre ce qu'ils vivent. Ça peut être aussi changer de regard, pas forcément changer de personne, quoi. Changer de regard sur eux-mêmes.
Changer de regard sur soi-même, sur les autres, sur le monde, sur la vie.
Oui, mais changer de regard sur soi, c'est peut-être ça qu'on appelle le changement, en fait.
Oui, alors, un changement de regard sur soi, en ayant un regard plus juste, plus optimiste, plus vrai, plus authentique.
On a le dit au moment ensemble, oui.
Plus authentique, en se débarrassant certainement des gens qui avaient un regard sur nous quand on était plus jeune, suivez mon regard, qui a pu être un petit peu toxique pour parfois, lorsqu'il n'était pas dans l'idée d'aider. On a du mal avec ça parce que je vois avec mes stagiaires, moi, beaucoup de gens sont dans une névrose de loyauté et pensent que les gens qui ont été les plus importants dans notre vie quand on était tout petit et qui avaient droit de vie ou de mort sur nous, hein, parce que ce qu'on fait quand on a un mois, deux mois de vie, je veux dire, les gens qui sont là, nous, on peut rien faire. Hein. Mais il y a du parent, c'est pas le cas de tous les parents, chers amis auditeurs, heureusement, mais il peut y avoir des parents rivaux. Hein, le parent rival, rappelez-vous, Hervé Bazin, Vipère au Point, Folcoche. Et le parent rival, malgré le fait qu'il aime son ou ses enfants, n'a pas forcément le désir, conscient ou inconscient, que cet enfant ait une vie plus heureuse et épanouie que lui. Comment vous voyez cette chose, vous, Claire Burel?
J'aurais tendance à dire qu'on n'apprend pas à être parent, qu'on n'apprend pas à aimer, et qu'il y a une forte injonction sur les parents qui doivent absolument aimer cette progéniture qu'ils n'ont pas vraiment choisie puisqu'elle leur arrive toute prête. ça fait beaucoup, beaucoup de peut-être, de si, de comment on fait, etc. Alors, parfois, on avait envie d'avoir un enfant garçon, on a un enfant fille, parfois c'est l'inverse. Voilà, on avait envie qu'il soit très doué au piano, mais en fait, il est hyper sportif, et c'est pas forcément empêcher l'un l'autre, mais voilà, il y a des choses... L'enfant arrive dans cette vie, et s'il est soi-même, il peut être extrêmement perturbateur pour le désir du parent, qui peut être en train de chercher à réparer sa propre vie aussi, des fois. Cette toxicité, elle est peut-être juste là. Et les enfants sont tellement loyaux qu'effectivement, ils vont peut-être chercher à réparer la vie des parents en leur faisant plaisir.
Moi, j'insiste sur le fait, vous me ferez votre feedback là-dessus, c'est que les parents, on est parents pour beaucoup sur ce plateau, et les parents, pour beaucoup, comme ils font eux aussi aucun travail sur eux, parce qu'il y a peu de gens qui font vraiment un travail sur eux sur la terre, et se rendent pas compte que les mots qu'ils disent, leur manière de se comporter, ont un impact dans le cerveau de quelqu'un, dans le cerveau d'un enfant de 5 ans, 4 ans, 3 ans, qui peut rester gravé à toute sa vie. Donc je vous dirais une chose, faites attention, on est plus doué en 2023 pour savoir ce qu'on doit mettre comme déchet dans la petite poubelle verte ou la petite poubelle jaune, sans prendre conscience que la communication inter- et intrapersonnelle est quelque chose qui peut intoxiquer quelqu'un et le rendre malade dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Moi, j'ai eu Jacques Salomé comme enseignant, le vieux monsieur Jacques Salomé, et je suis un fort partisan de l'écologie relationnelle, faites attention à ce que vous vous disiez. Dites, oh là là, je suis fatiguée. Est-ce que vous dites, Claire ?
Ben oui, justement, il faut faire attention à ce qu'on dit. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Et en fait, je travaille beaucoup avec l'hypnose. Donc, tout ce qui est compréhension inconsciente des choses me parle énormément. Je suis extrêmement attentive aux mots que j'emploie. Et dans la motivation, les mots qu'on emploie sont aussi extrêmement importants pour soi-même. Donc, c'est bien de faire très attention à comment on parle aux autres. Et c'est aussi bien de faire très attention à comment on se parle à soi.
On va en parler.
En plus.
On va en parler ensemble dans quelques minutes. Restez avec nous sur les ondes d'IDFM, la radio du bien-être. C'est passionnant. À tout de suite.
Se taise et tout devient aveugle et sourd. La nuit camoufle pour quelques heures la zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici, entre l'ignorance et la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets, et s'il le faut j'emploierai des moyens légaux. La peur ou l'abandon, je m'en sortirai, je te le jure. À coups de livre, je franchirai tous ces murs.
Envole-moi, envole-moi, demande ce jeune homme dans ce chef-d'œuvre du grand Jean-Jacques Goldman. Ça fait penser justement au thème de notre première émission de l'année 2023, puisqu'il est question d'ailes, il est question d'oiseaux. Mais les ailes, ce sont les vôtres, chers amis auditeurs. Les oiseaux, c'est vous. Claire Burel vous propose en vous disant, il ne suffit pas de rêver son envol, il faut battre des ailes. Autrement dit, agir. Claire Burel. Il y a l'idée à un moment donné des gens qui s'autocritiquent trop, des gens qui se plaignent trop. Qu'est-ce que vous voulez dire à ce sujet-là, des gens qui s'autocritiquent et qui se plaignent ?
Bah, en fait, on parle souvent de la vision du monde, ça c'est les yeux. On parle peu de la façon dont on dit le monde. Et pourtant, les mots sont extrêmement importants puisqu'ils s'impriment dans notre esprit. Et ils génèrent aussi énormément de comportements et d'attitudes. Les mots ont une énergie propre et c'est très important de bien les choisir. Ça peut souvent apporter des réponses positives. Quand on change un mot, quand on change une expression, là où l'expression qu'on aurait employée auparavant, finalement, dressait une impossibilité entre nous et l'objectif. Il y a des choses qui sont toutes bêtes et auxquelles on ne pense pas, comme par exemple les gens qui veulent perdre du poids. C'est un peu la tarte à la crème, ça, malheureusement, sans humour. Mais perdre, l'inconscient n'aime pas perdre. Donc, quand vous perdez vos clés, vous passez votre temps à les chercher jusqu'à ce que vous les retrouviez. Si vous voulez perdre du poids, vous allez passer inconsciemment votre temps à le reprendre. Et ça, c'est avéré, puisqu'on sait bien que dans ces cas-là, on fait pas mal de yo-yo. Donc, la façon dont on dit les choses a vraiment un sens fort. Et puis, bah voilà, les lapsus dont la psychanalyse est très friande, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'orthographe aussi. Parfois, elle utilise le langage des oiseaux aussi. Et parce que du coup, un mot va pouvoir évoquer autre chose que ce qu'il dit vraiment. Tout ça, ça nous donne l'idée de choisir le monde qu'on veut vivre à travers la façon dont on va le décrire. Et c'est pas par hasard si la publicité, elle est bourrée de slogans. Parce qu'un slogan, c'est comment on a enfermé le monde dans quelques mots. Et est-ce que c'est ce slogan-là qu'on a envie d'y mettre voilà.
Et puis il y a cette phrase très belle de saint François d'Assise qui disait déjà au XIIIe siècle, fais attention à ton mode de pensée et à ta façon de t'exprimer, bien devenir la prophétie de ta vie. Absolument. On crée aussi sa vie par ses pensées et ses paroles.
Oui, on s'oriente énormément puisque notre état d'esprit va aller chercher tous les signes qui vont prouver qu'il avait raison déjà. Et à travers ces signes, se renfoncer un petit peu plus dans la difficulté. Et... le choix de la parole, le choix de la pensée, ça peut être... Alors, il y a des personnes qui vont dire « Oui, mais j'avais raison, parce que ça s'est produit comme ça. » Moi, j'ai envie de dire dans l'autre sens « Oui, mais ça s'est produit comme ça, parce que c'est ce que vous attendiez, c'est ce que vous disiez, c'est ce que vous pensiez. C'est ce que vous avez créé, c'est ce que vous avez organisé à travers votre pensée, vos paroles et vos choix inconscients. » Dans le fait d'avoir peur de quelque chose, on a toujours dit la peur n'évite pas le danger, ça a toujours été vrai. Le fait d'avoir peur de quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon esprit, je formalise le truc dont j'ai peur, et je le formalise tellement bien que quelque part, si on repense à ce qu'on disait tout à l'heure, moi j'ai cousu ma robe 25 000 fois dans ma tête pour être capable de la faire ensuite sans même me poser de questions. Si je formalise dans ma tête toutes les peurs sous des images très précises et que je lui donne corps, etc., on a tous vu les enfants qui disait, mais je peux pas dormir, il y a un crocodile sous mon lit, il y a un cauchemar dans mon placard, comme dit le titre du livre. On finit par le créer, en fait.
Alors, il y a l'idée, vous connaissez évidemment comme moi, Claire, et on le dit à nos amis auditeurs, ce mouvement qui existe depuis le milieu des années 90 aux États-Unis, le no-complain attitude, le mouvement de la non-plainte.
J'arrête de râler,
j'arrête de plaindre. et ils disent que si on se fixe un défi en mettant un petit... Ils font ça, n'est-ce pas? Ils se mettent un petit bracelet pendant 30 jours et décident zéro plainte. On se rend pas compte combien on se transe la gorge pour le bien-être et le bonheur quand on se plaint dans la journée. Et on est un peuple de râleurs, nous, les Français.
Les Français sont, en haut de la médaille européenne, de la médaille mondiale, si on faisait un concours olympique.
On se plaint tout le temps.
Oui, on est très doués pour ça.
Et on est dans l'actu, là, avec ce qui s'est passé hier, avant-hier, j'ai envie de dire. Ouais. Mais c'est vraiment, on est dans l'actu. Ce qui bloque un peu notre pays parfois, d'être continuellement à pinailler, à se plaindre. Enfin, moi, je suis plus dans ce sujet-là, parce que moi, ça fait des décennies que je travaille plus, et vous non plus, parce qu'à partir du moment où on œuvre, on travaille pas. On peut, comme disait Confucius, trouver
quand
une activité dans laquelle vous vous éclatez,
aime,
vous travaillerez plus jamais de votre vie. Donc, moi, je travaille plus, évidemment. Donc, j'en ai rien à faire de ces histoires. Mais on sait que c'est pas le cas de tout le monde. C'est ça la vérité. On a beaucoup travaillé de manière passionnante ensemble lors de cette émission du fait qu'il y a deux types d'activités humaines, deux types d'activités métiers. Et les activités dites heuristiques et les activités dites algorithmiques. Et voilà, sinon là, beaucoup de gens ne sont pas dans l'heuristique. Dans des activités, on peut les remplacer par une personne une seconde après, ils font exactement la même chose. Et eux, évidemment, pour eux, les annuités, c'est important.
Mais c'est important pour tout le monde, parce qu'on est à fond dans notre vie quotidienne, concrète, matérielle, parce qu'on ne peut pas s'en échapper. Sinon, on va tomber dans l'optimisme béat, puisqu'on sera plus réaliste. Donc, il y a tout un jeu comme ça qui fait qu'on ne peut pas s'affranchir totalement de ce qui est la réalité des choses, mais ce qu'on a le droit de faire, effectivement, c'est de le vivre à notre façon. Et quand je dis notre, je parle de tout le monde, hein, je ne parle pas de vous et moi simplement. Mais chacun sa façon, qui n'est pas forcément la même que celle du voisin, mais d'une manière qui permette de rester positif, de rester optimiste, en dépassant ce passage compliqué pour aller voir ce qu'il y a au-delà, en cherchant une solution pour le vivre d'une façon plus agréable, etc. Enfin bon, il y a des quantités de personnes qui se sont aperçues qu'à travers cette crise que nous traversons actuellement, le simple fait de parler les uns avec les autres, de se réunir, de partager des choses, ça change complètement la vie de ce passage. Ça change complètement la vision qu'on peut en avoir et c'est enthousiasmant et j'ai entendu un certain nombre de fois, mais ça, sans la crise, on ne l'aurait pas fait. Et sans la crise, on ne l'aurait pas fait et on est trop content de le faire, quoi. Parce qu'on a découvert une autre façon de vivre. Sans la crise, d'autres ne seraient pas allés vivre à la campagne. Sans la crise, d'autres n'auraient pas changé de boulot. Et finalement, leur qualité de vie s'en ressent. Donc il y a quelque chose s'en ressent positivement. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la décision positive dans une situation négative.
Tout à fait. Alors, à d'autres passages du livre, vous parlez de l'idée qu'un être humain peut choisir sa perfection.
Hein, oui.
On est bien d'accord.
Très important.
Vous dites que la perfection n'est pas de ce monde.
Si elle y est.
Vision plein. Ah,
ah ouais, bah bien sûr. Bah oui.
Alors,
mais chacun la sienne.
Chacun la sienne. C'est pas là, alors. C'est ça.
Bah, c'est
sinon,
la notion de perfection.
Dans une dimension platonicienne, la perfection n'est pas de ce monde. Mais j'entends bien, moi, quand vous dites ça, sa perfection. Alors, développer pour les auditeurs de l'attitude positive, qu'est-ce que c'est sa perfection?
La perfection de l'être humain, c'est d'être exactement comme il est censé être pour être authentique, tout simplement. Si on prend une métaphore pour être plus clair, si vous regardez un puzzle de 1000 pièces, vous allez avoir 1000 pièces différentes, il n'y en a pas une qui est parfaite. Ça n'existe pas, une pièce de puzzle parfaite, on n'a pas le critère pour définir la perfection d'une pièce de puzzle. Et il peut y en avoir qui sont plus jolies que d'autres si on veut les isoler, mais ça n'a même pas de sens de parler d'une jolie pièce de puzzle à côté d'une pièce de puzzle moche. Ça n'a pas de sens parce que ce n'est pas un critère à développer. L'intérêt de la pièce de puzzle, c'est de tout ensemble réussir à créer cette image du puzzle qui a du sens pour le coup. Et c'est un truc où chaque pièce est indispensable. Et en fait, quand je fais ce petit jeu avec les personnes qui viennent me voir, je leur dis, quelle est la pièce du puzzle la plus importante? Alors, ils regardent devant moi parce que j'ai étalé quelques pièces d'un puzzle et ils savent pas trop. Peut-être celle-ci. Pourquoi celle-ci? On ne sait pas. Ils ne savent pas non plus. C'est parce que j'ai posé la question et qu'ils voulaient donner une réponse. Puis après, je leur dis, imaginez, vous faites le puzzle et il en manque une. Il manque une pièce. Elle est peut-être sous le tapis, elle est peut-être sous une table, quelque chose. Mais vous ne la trouvez pas. Quelle est la pièce du puzzle la plus importante? C'est celle-là. Et personne ne peut la remplacer, celle-là. Est-ce que quelque chose que personne ou rien ne peut remplacer, est-ce que ce n'est pas ça la notion de perfection? Et à ce moment-là, si c'est ça la notion de perfection, tout le monde est parfait quand il est à sa place, quand il est authentique.
J'aime bien cette idée du poète qui dit « il faut savoir faire boiter la beauté ». Et malgré le fait qu'elle boite, hein, elle est belle à nos yeux.
Ah oui, parce qu'elle est humaine en plus.
Mais oui. Et l'idée est vraiment, évidemment, de donner toujours le meilleur de soi-même, où qu'on soit, au moment où l'on est. Vous parlez à un moment donné de vivre chaque jour comme ça et d'être dans le meilleur de soi-même.
On est toujours dans le meilleur de
on
soi-même.
On ne saute pas la ville et niche, sautez pas 6 mètres 16 à chaque fois, à chaque saut à la perche.
Non,
il donne le
sûr.
Meilleur lui-même. Et je crois que c'est ça l'idée de sa perfection. Quand un jour où tu as un petit peu mal à la jambe, le jour d'une compétition, tu vas donner le meilleur de toi-même et tu seras pas au top.
C'est ça.
Et d'ailleurs, ça nous permet d'arriver vers la fin de l'émission, à parler des deux dernières choses que je voulais vraiment, qui me tenaient à cœur. Vous parlez que pour y arriver et pour battre des ailes magnifiquement, il faut souvent écouter son intuition, n'est-ce pas, Claire Burel?
Ah oui, l'intuition.
Comment on écoute son intuition?
Comment on écoute son intuition? C'est mon petit doigt m'a dit, c'est il y a quelque chose qui me dit que il y a, je le sens, je le sens pas. Il y a plein d'expressions finalement qui parlent de
les
cette
Québécois
intuition.
Les Québécois disent ça me fait oui ou ça me fait non.
Eh ben c'est très joli, j'aime beaucoup.
À chaque
beaucoup,
fois que tu sens quelque chose beaucoup. Pour une histoire d'amour, pour un choix de métier. Voilà. Ça te fait oui ou ça te fait non?
Voilà.
Et, j'adore.
Et ce questionnement de l'intuition, parfois, c'est j'aurais pas dû le faire, je me doutais, mais pourquoi je me suis pas écoutée? Il y a peut-être simplement à s'autoriser à avoir des réponses avant que les réponses soient dans le mental. S'autoriser à ce que la réponse soit pas rationnelle, mais que ça soit je le sens comme ça. Et mais est-ce que j'ai des arguments pour ça? Non, j'ai pas d'arguments parce que je l'ai pas réfléchi, je le sens. L'intuition, c'est pas le mental. Le mental, lui, il cherche des bonnes raisons, il cherche des critères, il cherche d'organiser les choses dans la pensée. Si on fait comme ça, il va y avoir tel critère, il va y avoir tel argument, telle possibilité. L'intuition, c'est pas ça du tout. L'intuition, c'est immédiat. Mais écouter son intuition, c'est peut-être simplement faire le vide à l'intérieur du mental. Et pour ça, peut-être écouter de la musique, peut-être se promener dans la campagne, respirer à plein poumon, boire suffisamment aussi, et puis se laisser envahir par cette intuition.
Chers auditeurs, j'espère que vous aurez l'intuition d'aller vous procurer ce magnifique livre de Claire Buren. Merci Claire.
Avec grand plaisir.
Toute notre gratitude d'avoir participé à la première de l'attitude positive. Ça a été un beau moment. Il ne suffit pas de rêver son envol, tel est le titre du livre. Il faut battre des ailes aux éditions Lanor. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'année 2023?
Moi, je me souhaite l'authenticité parce que je pense que c'est la meilleure façon de traverser tout ce qui est difficile en restant soi-même et ça, on n'a plus peur de rien.
Eh bien, on vous le souhaite.
Merci.
Chers amis auditeurs, merci. Merci à Francky pour la réalisation sans qui cette émission n'aurait pas pu avoir lieu. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois et d'ici là, portez-vous bien. On vous embrasse.